Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Mercredi prochain, le 11 janvier, va sortir le film de Clint Eastwood, J. Edgar, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de John Edgar Hoover, le fondateur du FBI. Et aujourd'hui sur Europe 1, Franck Ferrand a décidé de revenir sur ce puissant personnage. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. John Edgar Hoover a tenu le FBI pendant 48 ans, figurez-vous. De 1924 à sa mort en fonction en 1972. C'est un record de longévité aux États-Unis, toutes agences fédérales confondues. Hoover aura donc connu, en tant que grand patron du renseignement et de la police, 8 présidents, de Coolidge à Nixon, et 16 ministres de la justice. On doit pouvoir dire qu'il a été l'homme le plus puissant de l'histoire des États-Unis, avec tout ce que ça peut impliquer, évidemment.
Oui, car le personnage est aussi plein de contradictions,
Et notamment, il cachait probablement des liens très forts avec la mafia, il cachait une vie privée inavouable. Eh bien, Marc Duguin est mon invité aujourd'hui. Il est l'auteur d'un ouvrage magnifique sur Hoover qui s'appelle « La malédiction d'Edgar ». Il écrit « Edgar aimait le pouvoir, mais il en détestait les aléas. Il était devenu, à sa façon, consul à vie ».
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il est très rare qu'un homme puisse compter parmi les plus puissants de la planète pendant près de 50 ans. Ça a été le cas de John Edgar Hoover, dont on ne savait de son vivant à peu près rien. Le personnage était totalement méconnu et pour cause, il se cachait. Vous l'avez dit, Julia, mercredi va donc sortir en salle le nouveau film de Clint Eastwood, J. Edgar, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle titre. Un film complexe et passionnant sur la trajectoire incomparable et symptomatique de ce John Edgar Hoover, dont les Français ont découvert l'existence il y a 5 ans seulement à travers ce beau livre de Marc Duguin, dont je vous disais un mot à l'instant. J'ai sous les yeux la fameuse photo de Hoover réalisée dans son bureau au début des années 60 avec ce gros écusson rond et sombre du FBI qui se reflète partout dans un miroir, une fenêtre, le verre couvrant la table ronde. Hoover lui-même est assis sur le bord de cette table. Il est solide, il est impeccable comme toujours tiré à 4 épingles, la cravate bien tenue, la pochette blanche bien droite, la décoration à la boutonnière et puis ce visage carré, massif et sanguin, barré par des sourcils très droits sur des yeux sévères, le front vaste, avec les cheveux tirés en arrière. Voilà l'image assez rare, somme toute, d'un homme qui préférait œuvrer dans l'ombre. Nous sommes le 2 mai 1972, il est 8h30 du matin, il faut imaginer, on est dans une demeure cossue de Rock Creek Park, dans les quartiers ultra-résidentiels au nord-ouest de Washington. Il est donc 8h30 et Tom Motten s'inquiète, il est le chauffeur de John Edgar Hoover et chaque matin il a l'habitude de conduire son patron à 9h précise au bureau. Comme là, il ne le voit pas arriver, il commence à s'inquiéter, il se renseigne. Dans la maison, tout le personnel est perplexe. Il faut savoir que la gouvernante n'ose pas entrer dans la chambre de son patron parce qu'elle sait que M. Hoover dort nu. Finalement, Tom, le chauffeur, et James, l'un des jardiniers, vont pénétrer dans la chambre et là, ils découvrent Hoover, qui est étendu sur le sol à côté du lit. Il est sans vie. Il vient de mourir à l'âge de 77 ans. Il vient de mourir en fonction. Ce qui veut dire que cet homme aura donc régné sans partage sur le FBI pendant 40 ans. 48 années. Autant dire que par cette longévité et par sa position clé, Hoover aura littéralement dirigé la politique américaine pendant tout le cœur du XXe siècle. L'administration Nixon, il faut savoir, rêvait de remplacer Hoover. Elle ne lui offre pas moins des obsèques nationales, un privilège habituellement réservé aux chefs d'État. On va voir 20 000 personnes défiler devant le cercueil de Hoover, recouvert de la bannière étoilée et solennellement exposé au Capitole. Comment t'expliquer que le même homme, pendant toutes ces longues années, ait pu se maintenir à ce poste ultra sensible, dans un poste aussi éminemment politique? La réponse, c'est la réponse habituelle qu'on donne lorsqu'on parle de personnages en lien avec le renseignement. On dit, mais oui, mais Hoover connaissait tant de secrets. Parce qu'il savait tout, sur tout le monde, et jusqu'au plus haut niveau de l'État, bien sûr, cet homme aux millions de fiches était intouchable. Non seulement Hoover, je vous l'ai dit, aura servi 8 présidents, mais il les aura espionnés, et osons le mot, pour certains d'entre eux au moins, il les aura fait chanter. Pour de nombreux auteurs, nous sommes en présence là du plus grand maître chanteur de tous les temps. Pour d'autres auteurs, mieux au fait peut-être des arcanes du pouvoir américain, John Edgar Hoover était d'abord un grand policier, une sorte de Fouché à l'américaine, si vous voulez, grâce à qui ce pays, qui était en train de devenir à l'époque la première puissance du monde, s'est doté d'un outil policier à la mesure de ses incroyables ambitions. Ne perdons jamais de vue, lorsque nous parlons de Hoover, ces deux aspects du personnage, ces deux faces de Janus, la face lumineuse du grand patron et puis l'autre face, beaucoup plus sombre, de ce que certains ont appelé le salaud. C'est un géant américain, un des plus grands flics du monde, écrivait le Washington Times au moment de ce que j'allais appeler le jubilé Hoover. Norman Mailer, de son côté, nommait « Hoover a fait plus de mal aux États-Unis que Joseph Staline ».
Variation Goldberg numéro 2 de Bach sur Europe 1, c'est une musique utilisée dans la bande originale du film de Clint Eastwood.
Alors, John Edgar Hoover était né en 1895, le 1er janvier 1895, à Washington. Son père, qui s'appelait Dickerson Hoover, était un imprimeur. Cet homme-là, Dickerson, était nerveusement fragile, au point du reste qu'il passera les 8 dernières années de sa vie dans un asile pour aliénés. Tout ça va poser des problèmes. Les revenus de la famille périclitent assez vite. John Edgar doit quitter l'école, il cherche un emploi. Alors, il commence comme vacataire à la bibliothèque du Congrès. Faut oublier que ce garçon-là est très ambitieux. Leonardo DiCaprio fait bien passer cet aspect dans le film. On le voit passer des soirées à étudier en vue d'un diplôme de droit à l'université de George Washington. Et finalement, il est diplômé en 1917. John Edgar, il faut le dire, est aidé par un oncle qui est juge, a trouvé du travail au ministère de la Justice. Et on va le voir grimper très vite les échelons à l'intérieur de l'organisation de ce qu'on appelle aux États-Unis l'attorney général. C'est Alexandre Palmer à l'époque, et Palmer va faire de Hoover son assistant personnel. Palmer étant amené à créer une nouvelle section des services du ministère de la Justice qu'on appelle le GID, le General Intelligence Division, cette nouvelle section, constituée pour enquêter sur les activités suspectes de groupes révolutionnaires et ultra-révolutionnaires, cette nouvelle section va être en partie organisée par Hoover, qui va avoir bientôt la tâche de préparer l'arrestation et l'expulsion des personnes suspectes de sympathie communiste en Amérique. Faut pas oublier le contexte, hein. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale, en pleine période de difficultés aux États-Unis avec une forte chute du pouvoir d'achat, avec la reconversion de cette économie qui suppose beaucoup de bouleversements et notamment des grèves très importantes en janvier 1919. Tout ça sur fond de révolution bolchevique en Russie. En juin 19, une bombe posée par des terroristes anonymes va exploser dans Georgetown, le quartier le plus huppé de la cathédrale fédérale, et Palmer parle à ce moment-là de péril rouge, le Red Scare. Ce péril rouge va devenir une sorte d'obsession. Et pour un homme, un jeune homme comme Hoover, aussi intelligent que consciencieux, il y a là, évidemment, une opportunité. Hoover va mettre à profit son expérience à la Bibliothèque du Congrès pour créer un fichier massif des gens les plus en vue, vous savez, les gens qui ont des visées révolutionnaires, les gens qui sont très à gauche, on va dire. Et en quelques années, quelques 450 000 noms sont ainsi indexés, des notes biographiques sont détaillées sur, en tout cas, une soixantaine de milliers de personnes que Hoover considère comme les plus dangereux. Son but, c'est de circonscrire ces personnes, de les suivre de très près et, si possible, de les expulser. Le 7 novembre 1919, pour le deuxième anniversaire de la Révolution russe, plus de 10 000 suspects de communisme et d'anarchistes sont ainsi arrêtés dans 23 villes américaines. L'écrasante majorité de ces personnes est composée de citoyens américains et doit être relâchée. Mais la section n'a pas perdu son temps. Hoover possède maintenant les noms de centaines d'avocats qui avaient eu l'intention de défendre ces extrémistes en justice. Eh bien, ces avocats sont évidemment ajoutés à la liste des noms dans la base indexée par Hoover. C'est une véritable chasse aux rouges qui est menée, une chasse aux rouges dans laquelle on peut dire que ce jeune policier s'épanouit littéralement.
Un extrait sur Europe 1 de The Mooch, extrait de Duke Ellington, Franck.
Eh oui, ça s'impose. Le 10 mai 1924, John Edgar Hoover, 24, il a donc 29 ans, il est convoqué chez le nouveau patron de la justice et l'attorney général, comme on dit aux États-Unis, lui dit « Jeune homme, je veux faire de vous le directeur du bureau d'enquête ». Il s'agit du FBI, vous savez, le Federal Bureau, qui existe depuis 1908 et qui a été d'ailleurs créé, ça nous entraînerait loin de parler de ça, mais il a été créé à l'instigation d'un petit-neveu de Napoléon, Charles Bonaparte, ce bureau, ce FBI. Alors, Hoover se distingue d'abord par le caractère extrêmement rationnel des réformes qu'il applique au FBI. Rationalité dans le recrutement, dans la formation, dans l'encadrement des agents, tout le monde se doit d'être irréprochable et les méthodes qu'on y emploie sont des méthodes entre guillemets scientifiques. C'est notamment à partir de 1926 le développement du fameux fichier d'empreintes digitales qui va devenir l'arme principale de Hoover. Cependant, il y a évidemment des limites à l'autorité, à l'efficacité de ce bureau. C'est que ses attributions sont limitées. Les infractions à la loi sont encore du ressort des États, pas de la Fédération. Les agents de Hoover ne sont pas autorisés, par exemple, à porter des armes, ni à procéder eux-mêmes à l'arrestation des suspects. Hoover ne va cesser de se plaindre de cette situation. Il multiplie les notes aux différents présidents des États-Unis. Et en 1935, le Congrès va finalement accepter d'institutionnaliser ce Federal Bureau of Investigation, ce FBI, et désormais, alors oui, les agents seront armés, ils pourront agir contre le crime et la violence à travers tous les États-Unis. On peut dire que maintenant, Hoover a les mains libres pour mettre sur pied une véritable centrale de police d'envergure internationale. C'est un énorme laboratoire scientifique qui est créé, de même qu'une académie nationale du FBI. Et là, bien entendu, on recrute les gens qui sont triés sur le volet. Vous pouvez faire confiance à Hoover. Qu'ils l'admettent ou non, Hoover est en train de constituer une puissance, une sorte d'État dans l'État. Évidemment, les nécessités de la Deuxième Guerre mondiale et le soutien du président Roosevelt, du deuxième président Roosevelt, Franklin Delano, qu'il surnomme l'empereur, tout ça va aider Hoover, bien entendu, dans son ambition d'encadrer les États-Unis. Ce qu'il y a de plus fascinant, sans doute, dans la carrière de ce personnage, c'est qu'elle doit sa longévité et son efficacité, mais aussi ses limites, à la focalisation qu'il effectue sur la vie privée des agents, mais aussi des patrons, mais aussi de tous les concitoyens importants. John Edgar Hoover est devenu une sorte de père la pudeur qui va veiller sur la moralité de la vie de ses contemporains au point de modifier profondément l'image renvoyée dans le monde par des États-Unis qui définitivement sont campés dans leur éthique protestante et même puritaine. Le problème, c'est que Hoover lui-même est loin d'être irréprochable. Il semble qu'il ait sur ce plan un gros secret à cacher, un gros secret de nature privée lié à sa sexualité. En 1932, il a nommé Clyde Tolson directeur adjoint du FBI. Or, dans son livre « La vie secrète de John Edgar Hoover », Anthony Summers, que j'ai souvent eu l'occasion de citer à ce micro, Summers s'attache à démontrer qu'Hoover et Tolson avaient fini par devenir amants. Alors, on ne peut pas savoir ce qu'il en est réellement, mais ce qui est sûr, c'est que pendant 40 ans, les deux hommes seront très proches, ils sont des compagnons inséparables et au FBI, le couple est connu sous l'appellation de J. Edna et Mother Tolson, Truman Capote les surnommera même Johnny and Clyde. Le parrain de la mafia, Meyer Lansky, aurait obtenu la preuve photographique de l'homosexualité de Hoover. Et c'est ce qui aurait empêché, semble-t-il, le FBI de regarder de trop près du côté des activités criminelles de cette partie-là de la mafia. Cependant, la machine d'intimidation reste efficace. Et quand le journaliste Ray Tucker évoque l'homosexualité de Hoover dans un article pour Collier's Magazine, il fait l'objet d'une surveillance harassante de la part du FBI. De nombreuses informations à propos de la vie privée de Tucker vont être maintenant divulguées dans les médias et du coup, les autres journalistes se tiennent tranquilles. Alors la guerre aidant, Hoover convainc assez facilement le président Roosevelt de confier au FBI la tâche d'enquêter sur l'espionnage étranger aux États-Unis. Cela inclut toujours naturellement la collecte d'informations sur les personnes aux convictions politiques extrêmes. À la fin de la guerre, après qu'Elizabeth Bentley, ancien membre du Parti communiste américain, aura confié au FBI des informations sur un espion soviétique en 1945, Hoover sera convaincu qu'une nouvelle conspiration communiste visant à renverser le gouvernement légal des États-Unis est en marche. Alors on vérifie toutes les informations fournies par Bentley, qui se révèlent essentiellement infondées. Mais néanmoins, en intimidant les personnes que Bentley avait nommées, le FBI va obtenir l'information nécessaire pour accuser d'espionnage Harry Gold, Davin Greenglass, Edel et Julius Rosenberg, bien entendu. N'oubliez pas que l'administration démocrate est en place depuis très longtemps, depuis près de 15 ans à cette époque. Or, Hoover est sûr et certain que plusieurs personnalités importantes de ce gouvernement sont en réalité des membres cachés, des membres secrets du Parti communiste. Alors il prévient le nouveau président, Truman, qui l'envoie balader, et Hoover commence immédiatement à diffuser l'information sur des personnalités comme Ulger Hiss. Il communique ses renseignements de préférence à des hommes politiques dont il sait qu'ils lui sont acquis, et qu'il partage ses vues anticommunistes, ça inclut bien sûr le sénateur Joseph McCarthy, mais aussi des personnalités comme Richard Nixon. Harry Truman va devoir donner des gages à l'électorat s'il ne veut pas voir les républicains triompher dans un contexte de guerre froide de plus en plus fort. Il met bientôt en place, en novembre 1946, une commission temporaire chargée d'évaluer la loyauté des fonctionnaires. Et le 21 mars de cette même année, cette commission devient permanente par décret présidentiel. C'est le décret numéro 9835 qui établit un programme de vérification de la loyauté des fonctionnaires fédéraux. Et de son côté, Hoover se fait le défenseur de cette commission des activités anti-américaines, une organisation qui tout de suite s'appuie très largement sur des informations fournies par le FBI. Autant dire que le FBI en général et Hoover en particulier sont au cœur de cette poussée maccartiste qui va conduire dans les années 50 à la chasse aux sorcières que vous connaissez bien. C'est dommage que le film de Clint Eastwood passe vraiment très vite sur cet aspect. On ne le voit pas ça dans le film et ça a été essentiel parce que l'obsession anticommuniste aura sans doute été la plus importante de toutes les obsessions de Hoover pendant son immense carrière. En juin 1950, trois anciens agents du FBI vont publier un pamphlet qui rapporte les noms de 151 écrivains, metteurs en scène et comédiens dont ils affirment qu'ils ont été de près ou de loin, à un moment ou à un autre, membres de l'organisation subversive qui sévissait avant et au début de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas été blacklistés pour autant et comme par hasard, tous ces noms proviennent soit de dossiers du FBI, soit choix d'analyse menée par le FBI sur le Daily Worker, un journal publié par le Parti communiste américain. Un exemplaire de ce pamphlet est envoyé naturellement aux fournisseurs d'emplois dans l'industrie du divertissement et tous les gens listés sont aussitôt blacklistés. Alors là, oui, à la fin des années 50, on considère comme ça qu'il y a plus de 320 artistes qui vont être boycottés à la télévision, au cinéma. Le cas le plus célèbre, le plus choquant à nos yeux bien entendu, c'est cette mesure d'ostracisme incroyable dont va faire l'objet le grand Charlie Chaplin. Hoover et le FBI vont continuer longtemps de mener des enquêtes détaillées sur des personnalités éminentes dont ils pensent qu'elles pourraient nourrir des vues politiques dangereuses. Cela va inclure bientôt dans les années 60 les leaders du mouvement des droits civils, alors ça on le voit bien dans le film, et puis un peu plus tard tous ceux qui vont s'opposer tout simplement à la guerre du Vietnam. À partir de 56, Hoover a mis en place ce qu'on appelle le programme COINTELPRO, Counter Intelligence Programme, dont les cibles sont toutes les associations en faveur des droits civiques, enfin tous les mouvements progressistes disons. Je pense pas distordre tellement la réalité en disant que la super police mise en place par Hoover au cours de sa longue et brillante carrière n'aura pas été d'abord une police criminelle. C'est avant tout une sorte de police politique, même s'il ne s'agit pas de la comparer évidemment au KGB ou à la Gestapo, hein, y a de grandes différences. Mais c'est bien une police à tendance politique. C'est ce qui permet, je crois, de mieux comprendre certaines réactions actuelles. Lorsqu'on parle de Hoover, la sortie du film de Clint Eastwood, bien entendu, ravive un certain nombre de vieilles polémiques et l'on comprend ces polémiques lorsqu'on a conscience de ce que voulait mettre en place Hoover. On a l'habitude de dire que les temps changent et les hommes aussi, mais dans le cas de Hoover, c'est un petit peu le contraire. Les temps changent, mais l'homme, lui, reste. C'est une espèce de personnage monolithique et ce qui est incroyable, c'est qu'au début des années 70, alors que cet homme toujours en poste continue de diriger d'une main de fer le FBI, il n'a pas changé, il est identique à ce qu'il était au milieu des années 20 lorsqu'il voyait des rouges partout.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Extrait sur Europe 1 du Moonlight Serenade de Glenn Miller, puisque Franck nous parle aujourd'hui de John Edgar Hoover.
John Edgar Hoover qui est aux commandes, si je puis dire, depuis déjà 35 ans, lorsqu'en 1961, William Sullivan est nommé directeur adjoint de la division du renseignement du FBI. Sullivan a grimpé un peu à la manière d'Hoover, il a grimpé progressivement dans la hiérarchie et il est devenu donc le troisième patron du bureau fédéral derrière Hoover et son ombre Tolson. Or, très vite, William Sullivan va afficher son désaccord avec Hoover à propos du danger numéro un pour la sécurité nationale. Selon Hoover, ce danger, ça reste les communistes, les Kamenes, comme il disait toujours. C'est une espèce d'obsession pour lui. Sullivan aurait tendance à se méfier davantage des mouvements radicaux noirs. Et il sent bien que le FBI consacre trop d'argent à enquêter sur des politiciens de gauche qui, le plus souvent, sont finalement assez inoffensifs pour le système en tant que tel. Le 28 août 1961, Sullivan va jusqu'à envoyer à Hoover une longue lettre dans laquelle il souligne leurs points de divergence. Et dans un accès d'audace, au qu'on pourrait taxer facilement de suicidaire, il va jusqu'à suggérer que Hoover devrait songer, pourquoi pas, à la retraite. Après tout, il a l'âge, n'est-ce pas ? Ça, John Edgar ne veut même pas en entendre parler. Et vous connaissez la suite, évidemment. C'est Sullivan qui va devoir quitter l'organisation. Avec le temps, J.E.H., comme on l'appelait, hein, John Edgar Hoover, a fini par devenir une sorte de mythe vivant et d'autant plus légendaire, peut-être qu'on ne le voit que très peu. Il est une sorte de Léviathan installé au centre du système du pouvoir américain. Il est un tabou à lui tout seul, tant la plupart de ses contemporains hésitent ne serait-ce qu'à prononcer son nom. Il faut se faire une idée de ce que ça pouvait être que la puissance presque occulte de ce personnage. Comment, lorsqu'on a sous les yeux l'exemple d'une telle figure historique, ne pas être tenté d'en faire un livre, d'en faire un roman? C'est ce qu'a dû se dire Marc Duguin lorsqu'il a... Marc Duguin, qui est entre autres l'auteur, vous savez, de La Chambre des officiers, lorsqu'il a écrit La malédiction d'Edgar. Nous allons voir ça avec lui dans un instant. Qu'on le veuille ou non, le spectre de John Edgar Hoover hante aujourd'hui encore le sommet de la société américaine, et ça n'est pas la sortie tonitruante de ce film de Clint Eastwood qui va changer la situation. On peut dire que même à l'époque où il était vivant, les histoires les plus légendaires couraient sur son compte. On disait tout et n'importe quoi sur Hoover. Et bien, dans un instant, nous allons essayer de dire le plus possible, mais évidemment pas du tout n'importe quoi. Nous allons essayer de vous renseigner sur ce personnage tellement difficile à cerner. Je suis effaré de voir le nombre de messages qui nous
arrivent
dessus, littéralement. Ça prouve que le sujet intéresse nos auditeurs, tant mieux. En plein dans l'actu, nous dit Françoise. Oui, ça, c'est un fait. C'est intéressant de voir que le personnage a d'autant plus fasciné le public, me semble-t-il, qu'on en a, pendant très longtemps, su très peu sur lui. Bonjour Marc Duguin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La malédiction d'Edgar, c'est donc un roman à grand succès, paru chez Gallimard, réédité en folio maintenant. Vous avez vu, vous aussi, bien sûr, le film de Clint Eastwood avec Leonardo DiCaprio. Entre parenthèses, un Leonardo DiCaprio absolument éblouissant dans le film et qui évolue physiquement avec son personnage. À la fin, il est grimé, bien entendu. Il y a des séances de maquillage qui duraient, semble-t-il, des heures pour lui donner ce visage totalement méconnaissable, qui était très proche du vrai visage d'Edgar Hoover. Lorsque vous vous êtes intéressé au personnage, les Américains le connaissaient bien, mais les Français n'en avaient jamais entendu parler, Marc Duguin.
En réalité, quand je me suis intéressé au personnage, j'en connaissais beaucoup moins qu'à la fin, évidemment, à la fin des 2 ans de travail sur Hoover. Et ce qui m'intéressait a priori, c'était de savoir pourquoi Robert Kennedy n'avait jamais remis en question la thèse du tueur isolé dans l'assassinat de son frère.
Vous êtes vous-même d'ailleurs en train de préparer un film sur les rapports très complexes entre Hoover et les frères Kennedy.
Oui, c'est un film un film pour la télévision, beaucoup plus qui sera tourné aux États-Unis, mais beaucoup plus court en termes de période choisie. C'est-à-dire, j'ai choisi la période qui va, si vous voulez, de 1960 à 1963, qui est l'assassinat de Kennedy, qui est une période qu'on voit pas du tout dans le film d'ailleurs. Tant mieux pour moi. Mais je crois que quand j'ai travaillé sur Robert Kennedy, j'ai découvert à quel point l'ombre de Hoover était portée sur toute cette période et qu'il était absolument impossible de faire l'impasse sur une meilleure connaissance de Hoover, de ses mécanismes à la fois psychologique et politique, si on voulait comprendre un peu mieux ce qui s'est passé, en particulier dans cette période qui m'intéresse le plus, qui est celle de l'assassinat des Kennedy.
Il a été un personnage central dans 2 domaines, et je crois qu'il faut bien les distinguer. Un domaine policier, il y a un côté ficheur, c'est un homme de fiche, hein, évidemment, Hoover, c'est un fouché, je disais, à l'américaine, quelque part, quelqu'un qui sait tout sur tout le monde et qui donc tient ainsi l'establishment américain. Et puis, un politique, ne l'oublions pas, c'est quelqu'un qui, sans la sanction du corps électoral, sans s'être jamais présenté à aucune élection, a tenu le pouvoir politique aux États-Unis pendant un demi-siècle.
Alors il a commencé par être un flic d'exception, c'est ça la réalité. C'est que Hoover, en créant le FBI, qui est aujourd'hui célébré dans tous les films policiers qu'on peut voir sur les États-Unis, et en particulier ses agents, a créé un système de police aux États-Unis remarquable, remarqué et très, très suivi partout dans le monde. Ça, c'est le côté positif de Hoover. Et à partir de là, il s'en est servi pour créer une légende, laquelle légende, évidemment, occulte ce que vous disiez tout à l'heure, qui, à mon avis, est très juste, c'est-à-dire le côté police-politique de Hoover, et qui a mis toute sa rationalité, toute son efficacité au service du contrôle de la vie privée de tous les gens qui l'observaient. Parce que vous disiez qu'il n'a jamais été affronté le suffrage. Et Mieux encore, il a toujours évité d'être nommé ministre de la Justice parce qu'il savait que c'était un poste politique et que de ce poste politique...
Trop exposé.
C'était trop exposé et qu'on finirait par l'enchasser. Donc chaque fois, en particulier Truman avait essayé le coup, si je peux me permettre, et il l'a senti venir. Et à chaque fois qu'on lui a proposé la place, il l'a décliné.
Alors avant d'en venir aux grands aspects, à l'anticommunisme obsessionnel de Hoover, à son homosexualité, à ses rapports avec la mafia, à son rôle dans les affaires Kennedy, j'aimerais qu'on vienne à un certain nombre de petits détails. Ça va paraître anecdotique, mais c'est pour bien fixer le personnage et ça permet peut-être aussi d'expliciter un certain nombre d'éléments qui figurent dans le film de Clint Eastwood, mais qui ne sont pas explicites. Il faut les deviner quasiment. Par exemple, il avait la terreur des mains moites. Il détestait les gens qui avaient les mains moites.
Bah, il détestait les gens qui avaient les mains moites et en plus, il passait son temps à se laver les mains.
Oui, c'est ça.
Et il y avait d'ailleurs un de ses collaborateurs qui disait qu'il n'avait pas passé plus de temps à se laver les mains que derrière son bureau dans toute sa vie. Il y avait un côté toc chez lui.
Oui, c'est ça, obsessionnel,
compulsif.
Dire, oui, tout à fait. Avec des horaires tout à fait inflexibles, avec des rites. Il adorait qu'on célèbre ses fêtes et ses anniversaires, par exemple.
Oui, il y avait ça. Il y avait le fait qu'il ne supportait pas qu'on allume la lumière avant lui le matin au ministère de la Justice, puisqu'à ce moment-là, le ministère de la Justice et le FBI étaient ensemble.
Dans les mêmes bureaux,
et ça a été la première source de conflit avec Robert Kennedy, parce que Robert Kennedy se levait plus tôt que lui et ouvrait les lumières du ministère de la Justice avant lui, ce qui a créé un premier conflit quasiment nucléaire entre les deux dès le début. Il supportait pas qu'on marche sur son ombre.
Ouais, c'est quand même incroyable.
Je me souviens d'un agent qui s'appelait Freak, je crois, qui a été menacé d'être renvoyé parce qu'il avait marché sur l'ombre de Hoover dans les couloirs du FBI. Oui, on peut dire que si psychopathologiquement, il était assez chargé.
Dans les couloirs du FBI, il fallait surtout faire le grand silence quand il faisait sa sieste. Et alors, c'était à n'importe quel moment de la journée, surtout vers la fin de sa vie, où il faisait des siestes à répétition, si je puis dire.
Oui, il dormait beaucoup et évidemment, Robert Kennedy en profitait pour rentrer dans son bureau sans frapper pour le surprendre en pleine sieste.
Ouais.
C'était un jeu.
Alors, il n'avait pas beaucoup de plaisir dans la vie. Hein. Il avait toujours à côté de lui donc ce Clyde Tolson, qui est son compagnon. Alors, jusqu'à quel degré sur un plan sexuel, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, c'était vraiment son compagnon dans la vie, son ami absolu. Ensemble, ils chinaient, c'est-à-dire qu'ils allaient chez les antiquaires et ils allaient aux courses aussi, surtout même.
Oui, il y avait deux grandes passions qui étaient de chiner. Mais ça, c'est chiner les antiquaires, c'est tant que la mère de Hoover vivait.
Était en vie, oui.
Parce qu'il faisait ça pour lui faire des cadeaux. Donc ils passaient son temps tous les deux, ils passaient leur temps tous les deux à aller chiner, ramener des cadeaux, des antiquités à Madame Hoover. Et les courses, alors là, c'était une vraie passion. Et d'ailleurs, le lendemain de l'assassinat de Kennedy, ils étaient aux courses tous les deux, ce qui prouve que rien ne pouvait les arrêter dans leur. C'était l'endroit où s'établissaient les relations avec la mafia. D'ailleurs,
aux courses.
C'est là que les discussions se faisaient. Et d'ailleurs, il y avait un grand entraîneur qui avait donné à un de ses chevaux le nom de Hoover. Comme les courses étaient relativement truquées, il s'arrangeait chaque fois que Hoover était aux courses pour que le cheval gagne.
Ouais, évidemment, il fallait surtout pas le mécontenter. Alors, il y avait toute une rhétorique, bien entendu, que, et ça c'est terrible à voir, d'année en année, le personnel du FBI se mettait à adopter. Alors, les criminels, c'était les rats, the rats. Hein, c'était vraiment ça, on disait toujours des rats pour parler des criminels. Tous les politiciens qui n'étaient pas des faucons, tous ceux qui n'étaient pas pour une lutte intensive contre le communisme, c'était des têtes de patates. Quant aux journalistes, tout simplement, c'était une meute de chacals, de jiggles. Hein, quand Hoover parlait des chacals, on savait de quoi il parlait. C'était toute une phraséologie hooverienne.
Il y avait toute une phraséologie, il y avait tout un mythe qui se construisait, qu'il a construit, y compris avec l'aide du cinéma, sur toute son action en fait.
Take romance, I'll take jello. You come within the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. I've never mussed the crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance.
This is a fine romance, Marilyn Monroe sur Europe 1, Franck.
Marc Duguin, l'auteur de La Malédiction d'Edgar, qui est une plongée romanesque mais très précise sur un plan historique, au cœur de ce FBI dont Hoover avait fait son instrument, vraiment. Il avait eu presque 50 ans pour le faire, évidemment, c'était très important. Alors si on écoutait Marilyn Monroe, c'est que j'aimerais qu'on vienne justement sur le rapport très étrange qu'entretenait, et dont ne parle pas du tout le film effectivement, qu'entretenait Hoover avec évidemment son ministre de tutelle, avec l'attorney général Bob Kennedy, et puis avec le grand frère, avec le président des États-Unis, John Fitzgerald.
La relation entre Hoover, Tolson et les Kennedy est très ancienne. C'est-à-dire qu'elle commence avec le père. Le père qui est très vite identifié par Hoover.
Le père Kennedy.
Le père Kennedy, Joe Kennedy, qui est identifié par Hoover comme quelqu'un de potentiellement dangereux. Parce que d'abord, il fait une fortune considérable en très peu de temps avant et pendant la crise de 29. Et qu'il a des ambitions politiques. Le père aimerait bien être président. Et donc c'est une relation assez ambiguë qui est faite de flatteries, de tensions, jusqu'à ce que Joe Kennedy mette les moyens pour faire élire son fils John Fitzgerald, qui va devenir président et qui va nommer immédiatement son frère, qui est très jeune à l'époque, qui a 35 ans, attorney général, c'est-à-dire ministre de la Justice. Et là, ça va être le conflit entre deux générations. Il y a une génération...
C'est l'époque aussi de Sullivan, hein, d'ailleurs. C'est le moment
C'est l'époque de Sullivan. Et il y a un conflit de génération, si vous voulez, entre ces hommes que sont ce couple qui est Hoover et Tolson, qui sont nés dans l'autre siècle, qui sont des hommes du Sud, profondément racistes, misogynes, antisémites, homophobes, ce qui est quand même
un paradoxe.
Ce qui est un paradoxe. Et en phase 2, ce qu'on a appelé la nouvelle frontière, c'est-à-dire un rêve et un nouveau mythe, qui est le mythe Kennedy avec quelque chose de flamboyant, de très moderne, et en même temps une forme de misogynie aussi, qui est celle des Kennedy, qui consiste à user des femmes en série. Et donc, il y a immédiatement un conflit très violent qui se crée entre les deux familles,
dire famille
concernant Hoover, mais c'est à mon avis
avec,
un peu le cas.
Avec Tolson, il crée en tout cas une sorte de famille.
Il crée une sorte de famille. Et donc, les choses vont devenir... très violente, parce qu'évidemment, Hoover sait tout de l'histoire des Kennedy.
Et
il sait tout
de
leur rapport avec la mafia, et comment la mafia a aidé John Kennedy à être élu en achetant des voix en Illinois et en Virginie occidentale. Et tout ça, évidemment, Hoover va leur rappeler. Et là, il va se créer une tension assez incroyable entre eux.
Hoover a toujours lutté contre le crime, il est un homme d'ordre, il est obsédé par le danger, la menace communiste, il est un peu moins conscient peut-être des nouveaux types de menaces, nous l'avons vu notamment tout ce qui peut être le mouvement radical noir, etc., dont il n'a pas vraiment conscience. En revanche, il laisse la mafia quasiment dans une impunité, enfin, il ne s'attaque jamais réellement à la mafia.
Bah, c'est le premier reproche que lui fait Robert Kennedy quand il est nommé ministre de la Justice. Il va au bureau de New York et il dit « je comprends pas ». Il y a 3 dossiers sur la mafia et il y en a un millier sur le communisme. qu'est-ce que c'est que cette façon de voir les choses ? Et en même temps, on comprend que... Alors c'est une des thèses, c'est la mienne aussi, je l'ai épousée, donc je la défends. Je crois que la mafia avait des photos extrêmement compromettantes, parce qu'il y avait effectivement la relation entre Hoover et Tolson, qui était une relation de couple homosexuel installée. Et puis, sujet sur lequel je ne me suis pas énormément étendu, qui est aussi qu'il y avait d'autres manifestations encore plus... choquante pour l'époque, et la mafia évidemment avait ses informateurs et avait un nombre de photos assez impressionnant à sa disposition qui permettait
donc
éventuellement
son tour faisait chanter le maître chanteur.
De faire chanter le maître chanteur. Et donc il y a eu un équilibre de la terreur, sachant que ça avait commencé au moment de la création de la CIA, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Hoover voulait récupérer la CIA. Et il s'est trouvé en face de Donovan qui n'a pas voulu lâcher le morceau. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la future CIA a pris les photos qui ensuite sont arrivées entre les mains de la mafia. Et donc là, il s'est passé quelque chose qui fait que, et ça, on ne peut que le constater aujourd'hui, Hoover n'a rien fait contre la mafia, absolument rien.
Alors, Clint Eastwood, dans son film, s'intéresse assez, beaucoup, évidemment, à tous les débuts, on va dire aux origines de la vocation de Hoover. On nous le montre en super flic, en quelque sorte. On nous le montre aussi en chasseur de communistes dans les débuts. Mais on ne parle quasiment pas du McCarthyisme, quasiment pas de la période des Kennedy, effectivement. Il s'intéresse en revanche beaucoup à la vie privée et à la personnalité intime de Hoover, en nous montrant notamment ses liens, alors très peu avec son père, qui n'apparaît que comme une ombre, hein, ce père fou, qui a joué un rôle important quand même dans la vie d'Hoover.
Oui, défaillant.
Mais alors en revanche, un rapport très très fort avec la mère, jouée par Judi Dench dans le film, et qui alors est le grand personnage de la vie d'Hoover finalement. Elle domine la psychologie de son fils.
Oui, elle domine absolument la psychologie de son fils, parce que la mère de Hoover a été son mentor. Jusqu'à sa mort à elle. Et qu'effectivement, Hoover a souffert d'un père totalement défaillant qui avait une maladie mentale très grave, qui l'a amené à être hospitalisé, et finalement il est mort dans cet hôpital. Et je pense que la grande fracture psychologique de Hoover date de ce moment-là, et probablement, si on veut rentrer dans des thèses, comme dirait DSK, psychologisantes, la formation de son homosexualité peut être liée aussi à cette période-là. Et certainement, le refus de sa mère, on le voit dans le film, le refus de sa mère qui sent l'homosexualité de son fils et qui le prévient contre l'infamie que ça représente. Et ça crée, je pense, une immense schizophrénie chez Hoover. Parce qu'il faut parler de cette schizophrénie. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un homme totalement double. Et c'est évidemment ce qui a fait sa force. C'est d'avoir été double et de n'avoir eu aucun problème dans les frontières entre le bien et le mal.
Pour lui, tout ce qui relevait de sa croisade pour l'ordre anticommuniste était le bien par essence, même si ça allait parfois très loin dans l'illégalité, car il menait une politique autonome. C'est ce qu'il faut bien comprendre, je pense. C'est ce qui peut-être n'apparaît pas assez lorsqu'on parle du personnage habituellement. Il y a un dernier aspect que j'aimerais qu'on évoque, c'est celui de la fascination, aujourd'hui encore, d'une partie du peuple américain pour ce personnage. Et au moment de sa mort, le président Nixon, qui pourtant était loin d'être un ami, hein, qui ne l'aimait pas du tout, mais Nixon lui réserve des obsèques nationales et on voit 20 000 personnes défiler devant le cercueil couvert de la bannière étoilée.
Et Reagan fait un discours en disant que ça a été un des personnages principaux.
Le futur président,
Ronald Reagan, dit qu'il s'agit là d'un des personnages principaux de l'histoire américaine. Ce en quoi il a raison, sauf que c'est pas tout à fait dans le sens où on l'a perçu après. Il y a une mythologie Hoover, comme il y a une mythologie Kennedy, c'est-à-dire que les États-Unis aiment... Le rêve américain est fait de beaucoup de mythologies qui demandent à être, je dirais pas démontées, parce que c'est un peu violent, mais en tout cas réexaminées.
Ce que vous faites remarquablement donc dans La malédiction d'Edgar. Marc Duguin, nous attendons évidemment avec impatience la sortie de votre film pour la télévision sur les liens entre Hoover et la famille Kennedy. C'est Lionel qui me demande, c'est le dernier message, j'en ai eu tellement, qui me demande ce que signifie le verbe blacklister. Enfin, tout de même, on n'a pas le droit d'employer des termes pareils en français. Mais si, monsieur, puisque nous parlons précisément de l'inventeur même de cette notion, j'assume donc pleinement le terme ostracisé, si vous préférez. Mais en l'occurrence, c'était bien de blacklist qu'il s'agissait avec le terrible Hoover. Bonjour Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors pas de blacklist chez les experts, rien à voir d'ailleurs puisque nous allons parler de vos maisons. Comment s'agrandir par le haut en occupant les combles, par le bas en occupant la cave? Eh bien nous vous donnons toutes les solutions et nous attendons vos questions au 39-21, c'est toujours 34 centimes d'euros la minute.
C'est amusant parce que si l'on devait prendre la dimension symbolique de ce que vous dites, on reste totalement dans la thématique que nous avons traitée.
Exactement.
De la cave au grenier, comment s'agrandir
Avec tous les secrets qui y sont enterrés.
Merci beaucoup Elena. Nous nous retrouvons demain.
Avec plaisir. Un petit mot pour rappeler que J. Edgar Hoover, c'est un film européen produit, exactement, réalisé par Clint Eastwood et il sort ce mercredi.
Avec Leonardo DiCaprio qui fait un numéro d'acteur incroyable dans le rôle de ce personnage de John Edgar Hoover.
Merci Franck, à demain et merci à tous de votre confiance à Europe 1. Il est 14h et l'essentiel de l'actualité est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.